marcher dans la vie?
Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie? Des rendez-vous. Mais sinon, j'aime bien marcher. Hein. Oh oui, aussi la diète. Et puis, le truc, c'est qu'à Paris, il y a énormément de pollution. On a souvent des pics de pollution. Donc, on nous déconseille de marcher. Si on pouvait juste rester chez nous, ce serait plus simple. Il y aurait moins de malades, il y aurait moins de problèmes avec la sécurité sociale, etc. Donc, on n'est pas encouragé, mais je marche quand même. Il y a toujours des choses à aller voir, malgré tout.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue et au Jardin des Plantes de Nantes, Paco Thielmans, l'auteur de Cinéma Hermetica, vos films comme vous ne les avez jamais lus, livre paru aux éditions Super 8. Votre passion pour le cinéma, elle vient d'où?
En fait...
Vous n'êtes pas passionné.
Si, mais pas spécialement par le cinéma. Enfin, je suis passionné par certains films. Mais, par exemple, si vous parliez des films français qui sortent aujourd'hui, je dis, alors, passion pour le cinéma français actuel, j'aurais l'air d'un imposteur. Donc, soyons clairs. C'est surtout certains films, mais quand j'aime un film, je l'ai vu beaucoup de fois. Je le vois 20 fois, 30 fois, 40 fois. Donc, du coup, j'en ai pas vu tant que ça, mais je les ai vus beaucoup.
Est-ce que vous sentez un élève d'Hermès? Alors, je ne sais pas comment on prononce. Trismégiste.
Ah, vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Vous aussi l'appelez monsieur Thielmantalo, hein, si vous voulez. Disciple d'Hermès. Qui n'est pas disciple d'Hermès depuis le temps qu'il est là? Disons que quand j'ai lu le Corpus Hermeticum, la première fois, ça a beaucoup résonné pour moi. C'est le Corpus Hermeticum, donc c'est les textes qui ont été écrits probablement entre le 3e et le 4e siècle en Égypte. On ne sait pas si c'est des Grecs qui les ont écrits influencés par les Égyptiens ou si c'est des Égyptiens qui ont écrit influencés par des Grecs. On ne sait pas s'il y avait vraiment des hermétistes à l'époque ou si c'était juste des mecs qui ont écrit ces textes-là. On ne sait pas s'il y a eu un Hermès Trismégiste non plus. Par contre, dans ces textes, on articule extrêmement bien le caractère divin des images. Et donc la possibilité de faire parler les images ou de faire parler les statues. En l'occurrence, c'est surtout les statues, mais les images aussi de façon plus générale. Et on voit là la puissance divine de l'homme. Et cette puissance divine qui est sur le point de disparaître. Donc dans le texte qui est connu sous le nom de Discours parfait, on a cette espèce de long monologue qui dit « Égypte, Égypte, tes dieux ne seront pas toujours là, la nuit commence, etc. Et un jour, tu oublieras la façon dont tu savais faire parler les statues et dont les dieux répondaient à tes questions. » Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup, qui a beaucoup résonné pour moi quand j'ai lu ce texte-là, c'est parce que d'une certaine façon, quand on aime des œuvres d'art, c'est ce qu'on fait, on les fait parler. Et à travers les paroles qu'elles nous disent, à travers les images qu'elles nous présentent, on est peut-être un peu plus puissant pour vivre. Donc du coup, on peut vraiment dire qu'il y a une caractéristique divine là-dedans.
Vous n'appliquez pas, quand vous analysez un film qui pour vous est un film culte, sa méthode?
La méthode d'Hermès, ça dépend si vous entendez par la méthode d'Hermès la méthode alchimique à proprement parler. On parle d'alchimie pratique. Non, mais si on parle d'alchimie en termes de fonctionnement, c'est-à-dire... prendre du plomb et en faire de l'or, je ne prétendrai pas que je fais ça. Mais enfin quoi, grosso modo, j'essaye de faire transmuter quelque chose en quelque chose d'autre. Voilà.
Quoi en quoi?
En l'occurrence, des impressions de spectateurs, c'est-à-dire simplement des sensations en idées.
Je réalise en extérieur des interviews, comme vous le voyez. Et là, je suis avec Paco Thielmans.
Enchanté, je suis pour rien.
Qui est l'auteur de Cinéma Hermetica.
Si vous ne répondez pas à ces questions, je suis exécuté à la fin.
On va essayer de faire un effort.
Et Anthony, qui ce soir va le cuisiner.
Oui, voilà. Mais très, très amicalement.
De toute façon, je serai mort à la fin de la journée, quoi qu'il arrive. Non, donc, vous soyez tranquille.
Je veille. Est-ce que vous êtes cinéphile?
Je suis restitué en un seul morceau.
Plus celle que moi. Enfin non, toutes les deux en général. Ouais, bon allez.
Est-ce que l'une parle pour l'autre et l'autre parle pour l'une?
Ouais, généralement elle parle pour moi.
D'accord. Vos prénoms?
Moi, c'est Sarah.
Sarah.
Mélissa.
Mélissa. On va commencer par Sarah.
Donc, votre... adressez-vous à Mélissa, du coup.
C'est vrai.
Non, mais elle a parlé pour les deux.
C'est vrai, en fait. Votre définition d'un film culte.
Alors, pour moi, un film culte, c'est un film qu'on peut voir et revoir sans se lasser.
Ouais, c'est à peu près la même définition où, comment dire, il y a des scènes qu'on peut se remémorer facilement et où, par exemple, dans la rue, on va citer, par exemple, une réplique assez facilement.
Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux titres qui pourraient s'inscrire dans votre liste de films cultes?
Pour moi, il y a Pulp Fiction, j'ai Gladiator. Oui, mais c'est mon film culte. Et après...
Vous les assumez.
Oui, j'assume.
Précisons que c'est Mélissa qui a fait une grimace, hein, pas nous. Hein. On n'est pas snob à ce point, quand même.
Et après, pendant un temps, ça a été Mémoire d'une geisha.
Moi, je vais dire Le Prénom. Et également, enfin, Tous les filles de Lune Funès, où il est dedans. Pour moi, c'est des films assez cultes. Ils ont beaucoup regardé, même chez mes parents. Et du coup, on a tout le temps cette vision-là de films cultes.
Ok.
Ça marche.
Ah bah,
ce ne sont pas les vôtres.
Non, mais c'est pas grave. Chacun. Hein. Bah non, sinon, j'aurais fait mon bouquin sur Louis de Funès. Mais c'est une vous a pas échappé qu'il n'y avait pas de chapitre sur Louis de Funès.
Non.
Quoi, il y aurait pu, mais bon, c'était pas mon truc. Mais ouais. Quoi, c'est pas grave.
Mais là, sur la définition, vous êtes d'accord.
Ah oui, complètement.
Et la vôtre?
Bah, c'est la même. Ah oui, c'est un film que je peux revoir et revoir et revoir et revoir, parce qu'à chaque fois, il m'apporte quelque chose de plus. Donc dans ce sens-là, il a une caractéristique sacrée. Ça a un rapport avec le sacré, c'est dans le titre de mon nom même. Pourquoi j'ai fait le livre sur les films cultes? En fait, c'était une idée au départ de l'éditeur, de Fabrice Collin, l'éditeur de Super 8, qui m'a dit qu'il voulait que je fasse un livre sur les films cultes. Il m'a proposé ça, il a dit « tu voudrais pas faire un livre sur les films cultes ?» Et j'ai dit oui, mais alors ça sera sur mes films cultes, parce que sinon je vais dire des conneries. Voilà, sinon j'aurais fait un livre sur Louis de Funès, j'y connaissais rien. J'aurais demandé à Mélissa. Elle aurait été mon nègre.
J'ai le livre sur moi. Donc,
voilà. Oui, oui.
Vous regardez à la table des matières.
La honte totale.
Est-ce que ça vous évoque quelque chose?
Ah oui, Nymphomaniac, on l'a vu.
Possession, c'est...
Sinon, non.
Nymphomaniac, ça pourrait être un film culte pour vous?
Peut-être pas, mais non, un film à voir, oui. Ouais.
Ah, quand même, bien. Super.
C'est très subjectif, en fait.
Bah, forcément, puisque de toute manière, c'est un rapport au sacré. Donc le rapport au sacré, il passe par un canal. Le canal, c'est notre rapport à nous. C'est regarde les films de cinéma comme s'ils n'avaient été réalisés que pour toi.
Oui, le locataire aussi. Oui, on est en train de...
Vous avez vu Le Locataire de Polanski? Ah, génial.
Et après...
Et on pense qu'on a vu Shining aussi.
On pense qu'on l'a vu aussi, mais... Après, voilà, ouais, non, les autres, on ne les a pas vus.
Bon, bah, ça nous donne une liste de films à voir, du coup, ouais, comme
ah
ça.
Oui, carrément. Commencez par Céline et Julie vont en bateau.
D'accord.
Vraiment, c'est peut-être le plus difficile à trouver dans la liste, mais quoi, si jamais, vraiment, ça vaut le coup. C'est l'histoire de deux magiciennes.
Ah, ça peut être sympa.
Ouais.
Ça vous est arrivé de lire des critiques de cinéma ou des articles ou des livres sur le cinéma ou sur un film?
En général, avant d'aller voir un film au cinéma, c'est elle qui s'en charge. Elle regarde toutes les critiques qu'il y a dessus pour dire « bon, on y va ou on n'y va pas, ça n'a pas l'air top
». Non, c'est ça. Elle a raison.
Mais le fait qu'on puisse vous donner des clés de lecture sur un film, avant d'aller le voir...
Ou après.
Après, pas avant. Avant, c'est spé quand même.
Mais c'est ma question.
Bon, pardon. Je ne veux pas vous gâcher votre interview.
C'est la nôtre.
Oui, oui, mais là, bon, je vous laisse faire. Vous êtes les professionnels.
C'est vrai que des fois, si on lit des critiques au début, on se dit, bon, non, finalement, il y a cette critique négative, finalement, ça ne nous donne pas envie d'aller le voir. Et c'est mieux, en fait, de lire les critiques après pour savoir si on est d'accord avec ces critiques ou non.
Ouais. Moi, je trouve que parfois, lire les critiques avant, ça peut laisser une surprise parce qu'on peut aller voir le film avec une certaine opinion du film et ressortir avec l'opinion totalement inverse. Du coup, moi, je trouve que ça donne un autre goût au film. Mais après, c'est vrai que ça peut aussi... J'ai aussi lu des critiques qui m'ont totalement coupé l'envie de voir un film. Et même si après on me dit qu'il est bien, je sais pas, j'en ai tellement entendu du mal que je n'ai pas trop envie de le voir. Donc c'est à double tranchant.
Et quand vous lisez un article où il y a plein de références que vous n'avez pas, ça, vous vous dites, tiens, ça va enrichir ma base de connaissances ou ça vous énerve un peu ?
Non, en général, c'est plutôt l'inverse. Enfin, les références, ça me donne plutôt envie d'aller chercher au fond ou de voir si l'article est intéressant. Je me dis que les références derrière doivent sûrement être assez intéressantes à voir et donc ça donne envie de chercher.
Ah oui, on peut, dès qu'on lit quelque chose, on est obligé d'aller voir à côté. Sinon, c'est comme si on lisait pour rien finalement, parce qu'on n'a pas les connaissances qu'il faut. Donc ça nous donne envie de chercher à côté pour enrichir notre connaissance justement et voir si on a le même point de vue ou pas.
Bon, en même temps, moi j'aurais... J'ai aussi écrit un livre comme celui-là parce que je ne suis pas un fan des critiques de films, en fait. Enfin, quoi, il y en a des biens comme tout, hein. Mais bon, c'est plutôt... ça, c'est vraiment de l'après, quoi. J'aime bien voir... En fait, j'aime bien découvrir les choses par moi-même et ensuite les nourrir énormément. Donc, je ne sais pas si on appelle encore ça des critiques. Moi, parce que comme je suis extrêmement vieux con, vraiment vieux con, de très vieux, très, très vieux, j'utilise le terme d'exégèse. Bon, après, on peut se foutre de la gueule d'un mec qui dit qu'il fait des exégèses parce que c'est normalement, on fait des exégèses sur Saint-Augustin ou sur le Cantique des Cantiques. Mais à partir du moment où on considère que c'est sacré, on peut dire exégèse. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, on ne donne pas son opinion. Dans l'idée de critique, il y a l'idée quand même d'une évaluation, donc d'un truc de jugement. Une critique souvent se termine par un choix d'étoiles ou un petit bonhomme qui sourit. Dans Télérama, à une époque, il y avait un petit bonhomme qui souriait, qui faisait la gueule. Et ce n'est pas du tout l'idée parce que, bon, j'estime, ça c'est mon sentiment, que de toute façon, l'opinion de quelqu'un sur un film, c'est comme le peigne pour un chauve, quoi, en gros. C'est-à-dire, ça sert strictement à rien à quelqu'un d'autre qui aura une autre idée. À moins qu'on veuille l'enrôler, quoi. À moins qu'on veuille en faire son esclave, son double, ou qu'il vote pour vous. Donc, du coup, c'est pas du tout l'idée de donner son opinion sur quelque chose qui m'intéresse. C'est l'idée de nourrir au maximum le regard de quelque chose qu'on considère déjà comme bien. Donc en fait, l'opinion sur une œuvre d'art, c'est pas que je suis contre le fait qu'on la donne, pourquoi pas, et après tout, ça peut donner une occasion ou un truc comme ça. Mais disons que c'est pas ça que je recherche. Donc du coup, tout ce que je lis en général sur des œuvres que j'aime, c'est des textes qui nourrissent le regard, c'est-à-dire qu'ils disent là, il y a telle image qui renvoie aussi à tel film, donc qui arrive à voir des généalogies ou alors qui arrive à sortir également, on va dire, des comme des récits parallèles. Ça, on pourrait dire que ce film-là raconte ça aussi ou ça aussi. Et donc, on voit un même film et on peut le voir de plein de façons différentes. Pour Chinatown, par exemple, bon, j'ai pris vraiment une option qui était une option un peu extrême pour raconter le film, parce que le film raconte une histoire comme une sorte d'enquête de type film noir, mais avec quelqu'un qui régulièrement est averti par rapport au nom de Chinatown. Ça se passe à Los Angeles et à la fin, finalement, il ira à Chinatown. Et donc, en fait, cette espèce de truc où le mot Chinatown revient à chaque fois associé à un truc terrible, alors j'ai décidé de carrément prendre à l'extrême et de dire, bon, ben, en fait, il a déjà vécu, il revit. Ce film est en boucle, mais ce n'est pas du tout dans le film. Mais disons que j'ai vu le film en me disant cette idée-là et ça marchait bien et c'était intéressant. Donc j'aime bien aussi ces trucs-là où on raconte une autre histoire, on revoit le même film, on le fait circuler comme ça en lui donnant une autre, un autre synopsis ou une autre narration. Et ça, tous les types qui ont fait des choses comme ça, j'adore. Ça m'intéresse énormément. Évidemment, sur le moment, j'oublie son nom parce que c'est horrible, la mémoire, et on vieillit. Mais quelqu'un qui avait fait des trucs comme ça, passionnants sur Mulholland Drive, par exemple, qui avait proposé une suite de scénarios possibles supplémentaires. Et donc, j'avais cité aussi, entre autres. Ça.
Qu'est-ce que vous faites ?
Étudiante.
En philo, non ?
En droit.
En droit. Bon.
Ça tombe bien, j'ai besoin d'un avocat.
J'ai
le tort. Ça sera un long procès de toute façon.
Le procès ?
Non, c'est une blague.
Ah bon, merci. Moi, je suis à la recherche du scoop.
Ah ben voilà, il faut l'inventer.
Nous accompagnons Paco Mtielman, l'auteur de Cinema Hermetica, livre paru aux éditions Super 8. Pour mentir, il faut parler, et mentir, c'est parler.
Pourquoi moi en premier ? parce que c'est pour toi ça.
Opinion, pour avoir l'opinion de l'autre.
Il faut parler, pour parler. Bah, finalement, tout ce qu'on dit, c'est mensonge. Parce que pour parler, il faut mentir, et pour mentir, il faut parler. Du coup, c'est un cercle vicieux. C'est qu'on ment à chaque fois. Dès qu'on raconte quelque chose, on ment, ou du coup, on peut l'interpréter différemment. Et du coup, ça rejoint cette citation de Foucault, il n'y a pas une vérité, mais des vérités. Mais des vérités seraient des mensonges. Enfin, si on part dans cette analyse.
Je trouve qu'elle a fait une bonne analyse.
Oui, c'est intéressant. C'est même mieux que le paradoxe du menteur, là, avec le crétois.
Est-ce que écrire, c'est aussi mentir ?
Mais ça dépend à qui. Il y a plusieurs adresses dans un texte. À quelqu'un, on dit la vérité, à quelqu'un d'autre, on ment au même moment.
Mais dans un livre ?
Dans un livre, il y a plusieurs adresses, il y a plusieurs types de lecteurs. Il y a des lecteurs à qui on dit tout, on se confie intégralement. Et pour d'autres, comme c'est inaudible, de toute façon, ça sera tout pareil qu'à des mensonges. En fait, c'est pas la peine de mentir, puisque les gens n'entendent que ce qu'ils veulent. Donc ça sert à rien de mentir. Vous voulez pas que quelqu'un sache un truc vous concernant, vous le lui dites, vous savez très bien qu'il va pas écouter. Sauf si c'est vos parents. Là, ça marche pas, ils écouteront quand même.
Merci le fils, hein. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu parler?
Non.
Si ça me dit quelque chose, oui, c'est un de mes maîtres. Marcel Fissin, c'est celui qui donne le coup d'envoi de la Renaissance hermétique. La Renaissance, il y a eu plusieurs Renaissances. Et en Italie, en particulier sous les Médicis, dans un premier temps, avant la Renaissance humaniste, qu'on connaît, qui est celle qui a fait Florès, comme on dit, il y a eu une Renaissance hermétique. Et Marcel Fissin, c'était une figure clé, parce que c'est lui qui a reçu, alors qu'il était le précepteur du jeune Lorenzo de Médicis, la caisse envoyée par Gémiste Pléton avec tous les textes de Platon. Et aussi, en espèce de bonus, mais en fait c'est drôle, parce que normalement il devait traduire tout Platon, et il reçoit le carton avec, je sais pas quoi, tous les textes de Platon qu'il va se mettre à traduire en italien pour la cour des Médicis, et en bonus il a le Corpus Hermeticum, qui va avoir l'histoire qu'on connaît, et fascinante. Mais c'est un peu comme, je sais pas quoi, vous commandez des bouquins, parce que je conseille pas, il faut aller en librairie, mais bon, vous commandez des bouquins épuisés, et des fois ils vous mettent un bonbon, ou alors un polar, comme ça, en plus, pour avoir une bonne note. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en espèce, en bonus, on lui a foutu un petit... Ça va l'amuser, tiens, on va lui foutre le Corpus Hermeticum. Quand il tombe là-dessus, ça change tout dans sa vie. Et ça changera tout pour au moins le siècle qui suit en Italie, où ça va créer des problèmes monstrueux, parce que c'est... pas uniquement pour ça, mais c'est en grande partie, en tout cas, ça n'a pas aidé à conserver, on va dire, le blanc-seing de Florence par rapport à l'Église catholique. Parce que à partir du moment où il tombe sur les textes de Hermès Trismégiste, il se dit Hermès Trismégiste, ça c'est une erreur. Mais c'est pas grave, c'est une erreur qui va être fructueuse. Il se dit ça doit être antérieur à tous les textes bibliques. Il pense que c'est les premiers textes sacrés. Parce que Hermès Trismégiste, il y a quelque chose de pur, de premier. Et il se dit il doit y avoir une espèce de chaîne initiatique. Il dit pas initiatique, hein, c'est pas les termes de l'époque, mais enfin je crois qu'il appelle ça une chaîne d'or, ou je sais plus exactement, un fil en tout cas qui va de Hermès Trismégiste jusqu'à, mettons, Mahomet, et qui passe par Zoroastre, qui passe par Agathodaimon, qui supposait avoir été maître de Socrate, qui passe par Moïse, qui passe par le Christ, etc., etc. Et il se dit voilà, mais Hermès c'est la base, et à partir de ce moment-là, il dit on va tout repenser par rapport à Hermès Trismégiste. Et il va être suivi par Pic de la Mirandole, par Giordano Bruno, par Campanella, et par une figure extrêmement émouvante qui a été vraiment quasiment déterrée historiquement par l'historienne anglaise Frances Yates, qui est Giulio Camillo, qui est celui qui a voulu créer le théâtre de mémoire à Venise. Le théâtre de mémoire, c'était un théâtre pour un spectateur unique qui rentrait et qui était supposé voir animer des sortes de figures en bois qui allaient le connecter à une sorte de mémoire universelle avec les symboles qui seraient les symboles, on va dire, cosmiques, principaux, et il devrait sortir de son expérience avec la connaissance absolue, la connaissance totale. C'est évidemment un rêve ou une chimère, mais c'est une chimère fructueuse. Et il va réussir à se faire financer pendant un moment par François Ier, pendant un bon moment, plusieurs décennies, mais il est supposé faire deux théâtres à la fois, un pour Venise et un pour les Français. Et évidemment, il n'arrive jamais à terminer son théâtre de mémoire. Donc au bout d'un moment, on lui coupe les fonds. Il retrouve un doge à Venise qui lui prend ça, d'occasion, ou je sais pas quoi. On perd complètement le théâtre. Mais on a gardé des notes et des rencontres des gens. Lui, il a vraiment été considéré comme l'ennemi principal de la Renaissance humaniste. Erasme voyait ça d'un très très mauvais œil. Parce que ce que ça faisait, c'est que ça représentait l'intelligence humaine comme avant tout réceptrice d'images, plus que de paroles. Et là, dans la Renaissance humaniste, c'est avant tout basé sur le par cœur, tandis que les hermétistes ont joué énormément sur les images, sur les symboles, et donc en fait ils avaient une mémoire incroyable, mais qui n'était pas une mémoire du par cœur, qui était une mémoire visuelle. Ils avaient organisé leur esprit, leur cerveau, un peu comme en Grèce, Simonide de Céos et les juristes avaient développé ce truc-là parce qu'ils devaient se souvenir d'un paquet de trucs, c'était très difficile. Ils avaient architecturé leur cerveau vraiment comme des pièces avec des objets, des images qui, elles, quand on les voyait, faisaient revenir tout un tas d'histoires. Donc Giordano Bruno, par exemple, il a circulé dans toute l'Europe sans un seul livre sur lui, et il savait tout. Il savait à peu près tout. Donc il arrivait dans une cour, etc. On lui demandait d'enseigner, je ne sais pas quoi, il pouvait. C'était des types qui avaient réussi à avoir une sorte de mémoire extraordinaire, mais à moitié irrationnelle, magique. Et ça ne plaisait pas du tout. Et Jules Camilo, voulant quasiment le mettre en place de façon très très nette, Erasme avait envoyé des sortes de, je sais pas quoi, d'espions, enfin un mec qui s'appelle Viglius van Aita, qui allait faire un reportage, je crois qu'il lui envoyait des lettres en disant « Alors Camilo, il fait ça, c'est gnagnagna. » Et l'autre, « Pas bien. » Bref, voilà. Bon, je vous raconte un peu des histoires. C'est pas des mensonges, hein. Ça c'est vrai. Enfin, j'étais pas, mais bon, j'ai lu.
Et de mémoire.
J'ai eu du mal à retenir tous les noms. Et...
Voilà. Il faut travailler sa mémoire visuelle, architecturée. Surtout en droit. Hein. Si vous devez être mon avocat, je ferai avant des vérifications de la mémoire architecturale.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Bah, bonne soirée.
Merci
à vous.
Mélissa, merci Sarah. Au revoir. Au revoir, merci.
L'ordre des chapitres est prémédité ?
Non, il est venu de façon organique, on va dire. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai fait une liste au début, mais je ne l'ai pas tenue parce qu'elle ne fonctionnait pas. Ce qui s'est passé, c'est que un film en a amené un autre. Alors, ce qui était absolument prémédité, c'est que ça se termine par Shining. Ça, de toute façon, j'avais décidé de faire Shining à la fin parce que ça allait être le plus difficile, étant donné que c'était, à ma connaissance, le film qui avait eu le plus d'exégèse et le plus d'interprétations nombreuses, complexes, des fois totalement délirantes. Il y avait eu même un film là-dessus, un film sur les... C'est un truc étonnant, Room 237 de Rodney Asher, qui est un film sur des gens qui interprètent Shining. Donc je me disais, bon, j'ai envie de faire Shining, mais je ne vais pas le faire au début parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Donc ça va être progressif. Et donc du coup, le premier que j'ai fait, ce n'est pas le premier texte du livre, c'est le troisième, c'est celui sur le locataire. À partir du locataire, je suis retourné en arrière, je me suis dit, je vais mettre mes bases dans deux autres exégèses, une de Nosferatu et une de Freaks, qui vont me servir à donner des directions pour le reste du livre, parce que les exégèses sont connectées entre elles, il y a une circulation, et après il y a une évolution. Donc une fois que j'avais fait ça, je suis reparti du locataire et après je suis allé sur Possession.
Merci à Pacôme Thielmans, l'auteur de Cinema Hermetica, livre paru aux éditions Super 8, et merci à
Sarah, Mélissa
pour leur libre participation à ce reportage réalisé avec les complicités d'Eugénie Barbeza, d'Anthony Poiraudeau et de la librairie La Vie devant soi. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant ?
J'ai trouvé un avocat. Je suis très content, j'ai trouvé un avocat. Oui, je ne vais pas en faire d'autres, des exégèses de films, c'est probable. Hein. À moins vraiment qu'il se passe quelque chose d'étonnant et que ça change tout. Mais il y avait un côté... chaque fois que j'ai fait un livre, ce n'était pas systématique, mais j'aime bien changer de médium artistique. Parce que comme ce que j'essaye de faire, c'est construire des méthodes d'exégèse ou des manières de regarder, c'est plus intéressant de pas rester sur une même forme. Donc j'avais commencé avec la pop musique, donc les Beatles, Zappa, et puis après j'avais fait un peu la bande dessinée, et puis des séries télévisées, et là c'était le cinéma. Maintenant, tout peut arriver, il peut se passer que demain il se passe un truc vraiment bizarre qui fait que je me sens que faut que je retourne dans l'exégèse du cinéma, il y a un truc qui manquait vraiment, qu'il faut que je recherche autrement. Mais sinon, normalement, le prochain livre, il est sur les gnostiques. Donc, c'est encore autre chose. Voilà. C'est encore un autre... Enfin, c'est le même sujet, mais c'est pas la même forme qui est traversée.
Il n'y a plus qu'à vous lire.
Ou pas.